Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour, bonsoir, chers lecteurs et chères lectrices, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être à l'écoute de 48FM pour votre émission littéraire, un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère. Attention, cette émission est déconseillée aux moins de 18 ans, car il va s'agir aujourd'hui de littérature érotique. Lors de nos émissions précédentes, l'une de nos chroniqueuses, dont je tairai le nom, me rabâchait sans cesse Ludo. La littérature érotique est un genre à part entière, on se doit d'en parler. Ce à quoi j'ai répondu un jour, d'accord Claire, nous allons faire une émission consacrée à l'érotisme dans la littérature. Malheureusement, la honte, la gêne et un accouchement ont rattrapé notre chère Claire qui ne sera pas présente aujourd'hui, de même que Marlène qui feinte une quinte de tout pour éviter de devoir parler d'histoires salaces, de sexe, de verge, de pénis. J'étais donc ce matin même devant ces désertions, prêt à annuler cette émission maudite que nous avons reportée des dizaines de fois, traînant mon spleen dans les locaux de la Ligue de l'Enseignement. J'ai croisé Nico qui m'a demandé l'objet de mon ennui et devant mes explications, je vis un sourire enjoué marquer son visage. C'est alors qu'il me dit « Mais Ludo, je vais remplacer Marlène est aussi Claire, car je suis un spécialiste de l'érotisme. Sais-tu que je suis abonné à Penthouse, Playboy, Le Chasseur Français et Bricomag depuis 1972 et que j'ai une collection VHS à faire pâlir tout collectionneur ? Et il me raconta donc sa période où il fut, accrochez-vous bien, acteur en Lozère et où il tourna dans le film qui a failli être oscarisé, File-moi la Ligo. Bonjour Nico, merci de participer à cette émission.
À l'enfoiré. À l'enfoiré. Mais je me reconnais un peu dedans quand même, mais très légèrement.
Le chasseur français.
Au niveau des vidéos, c'est tout.
Valérie, quelle est ta scène préférée de File-moi la Ligo ?
Là, tu me prends de court, puisque c'est dans le thème. Et bah, je dirais, mais c'est une vieille histoire avec des évêques qui se retrouvaient au col des trois évêques et de crème fraîche. Mais la décence et la bienséance m'interdisent de préciser plus mon passage préféré.
Bah, je t'en remercie. Pauline, tu t'es toujours refusée à regarder le film.
Ah oui, 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 c'est trop choquant pour moi, petite âme, petite nature.
Tu devrais pourtant, il y a une scène succulente dans la cuisine. Bon, enfin bref. Alors, on va commencer avec du romantique.
Et de la patate.
Alors, du romantisme, Venise, l'auteur italien Paolo et l'auteure Serpieri, que connaît très bien Nico, mais c'est Valérie qui va nous en parler, car elle a lu une ou deux BD, c'est ça ?
22.
Mais pourquoi pas ?
Toute la collection de Serpieri, même celle qu'il n'a pas écrite, quoi.
C'est ça, oui, parce que justement, si Ludo a fait son travail correctement... Il nous parlera tout à l'heure de qui est Serpieri. Donc, pourquoi Nico doit mieux connaître ? Parce qu'ils sont à peu près contemporains, à 20 ans près.
Ouais, c'est ça.
Oui, on a décidé de t'allumer aujourd'hui.
Je vois.
Il n'y a pas d'émission à la Saint-Nicolas, donc je sais pas, on est Sainte-Barbe, certainement aujourd'hui, je sais pas.
Je ne sais pas.
Voilà. Et on s'en fout.
J'ai
en même
les
temps.
Deux, le prénom et la barbe.
De ouais. Druna ? Non, de Serpieri. Non, voilà. Druna, c'est un peu le... Druna est à, comment on pourrait dire, à Druna est à Serpieri, ce que le petit prince est à Saint-Exupéry, en fait. C'est un peu le personnage, Nico opine du chef, donc, oui. je vois qu'il est d'accord. Je parle sous son
verre. Ouais, c'est ça.
C'est ça, tu es d'accord, chef. Voilà. Et donc, Druna, c'est un personnage, enfin, c'est plus qu'un personnage, c'est une femme, c'est une
héroïne.
Une héroïne, et c'est tout ce qui est de plus voluptueux et de plus beau dans ce que
c'est la femme.
De la plastique d'une femme, exactement. Ouais. Je pense qu'aucun être vivant sur Terre
ne peut être insensible.
Ne peut me contredire. Non, mais c'est ça, elle a des courbes.
Elle est canonique, en fait.
Parfaite, elle a un âge parfait, elle a une. Elle est.
Une expérience.
Voilà. Elle est un peu comme moi, mais sauf que je suis myope.
Elle est que physique.
Alors.
Non.
Voilà une bonne question.
De prime abord, on pourrait se dire,
on parle d'érotisme.
Oui, c'est érotique. Excusez-moi,
on
s'en fout.
On lui a pas demandé son.
Non, est-ce qu'elle est curieuse? Tu peux demander. Est-ce qu'elle est curieuse?
Mais ça, elle est très, très, très curieuse.
Et à la base, elle est pas si curieuse que ça, en fait.
Elle est surtout rieuse. puisque non
il faut s'imaginer, moi je dirais aussi plutôt que son meilleur profil ressemble, imaginez vous êtes dans le noir, vous marchez sur un Lego que votre fils ou votre fille a laissé traîner par terre et vous êtes pris d'une grosse douleur et tout votre visage se crispe. En fait, imaginez ce visage là sur Druna, mais c'était pas sur un Lego qu'elle a marché et c'était pas avec son pied. Donc du coup Druna c'est une créature, enfin une humaine absolument
Mais tu peux
magnifique.
Dire une créature parce que oui, ça fait penser à ça, dans Creatura notamment.
Oui, mais c'est effectivement, après ça part sur de la SF parce que Druna, pour moi, c'est la BD parfaite parce que ça mêle ce côté érotisme mais aussi de la science-fiction et à la pelle. Il n'y a pas un des 22 albums qui soit pas un peu science-fictionné. Après, il faut être un peu science-fictionné dans sa tête pour apprécier parce que ça mêle forcément aussi beaucoup l'érotisme et la science-fiction. Donc, qui dit science-fiction dit créature, dit monstre, dit choses un peu fantasmées, mais fantasmées pas dans le côté poétique du terme, mais dans le côté
un peu gore.
Ouais, un peu gore. On va avoir des monstres avec des tentacules. Toute rime avec tentacules, c'est de fortuite, mais le CSA ne l'interdit.
1985, la série, voilà, pour replacer les Druna.
Ouais. Et ça s'est fini quand?
Je ne sais pas.
Non, parce qu'après, ça a été repris, en fait.
Entre 1985 et 2003, ouais, 8 volumes.
Oui, voilà. Et après, donc, ces deux autres auteurs, il y avait Hero et je ne sais plus comment il s'appelait, le deuxième. Enfin, ces deux autres auteurs qui ont... Serpieri, en fait, s'est trouvé trop... Enfin, pas trop âgé, parce que d'ailleurs, il s'est dessiné en train de dire au revoir à Druna, en fait, de la laisser partir avec deux autres auteurs. C'est quelque chose de très beau, je trouve. En plus, en tant que dessinateur, il est laissé partir son personnage, en fait, de son vivant. En plus, ça, c'est même pas...
Ah, il est décédé. Je ne savais pas.
Oui, mais là, au moment où il a laissé partir, il était encore en vie. Il était à la fleur de l'âge, 77 ans.
D'accord.
Parfait, quoi. Et donc, cette créature, Druna, donc son monde commence à être dévasté par un mal. Et ce mal, quand il touche les hommes, ils mutent, en fait. Ils deviennent mutants. Et Druna, qui a hormis d'être une créature absolument sensuelle et sensible, elle est très amoureuse de son... Arrête de mâchouiller dans le micro.
Oui, ça s'entend, c'est désagréable.
Ah, c'est pas qu'il mâchouille. Ouais.
Je pense que le maïs grillé, c'est une très mauvaise idée pour les émissions radio.
Il est un peu trop dans le thème, alors.
Ça colle aux dents, en fait.
Il a soif, oui, c'est ça.
Et du coup, cette Druna, elle est en quête tout le temps dans les premiers épisodes de ce sérum parce que son cher étant, son amoureux, qui est une créature qui est à l'homme, ce que Druna est à la femme, c'est une créature absolument magnifique aussi en mâle, a été contaminé par le mal. Et il existe un sérum qui se vend un peu en contrebande, un peu comme au début des vaccins Covid, vous savez, où c'est qu'on dit « Ah, je t'échange mon rendez-vous contre des faveurs... » Vous ne l'avez pas fait ?
Non.
Ah, ok, désolé. Et donc, voilà. Donc c'est
la prochaine épidémie.
Oui, mais je le saurai la prochaine fois, putain. C'est MST pour rien, quoi. Du coup, donc, Druna, elle part un peu en quête d'aventure et il lui arrive des choses absolument extraordinaires. Elle voyage sur des espaces-temps différents et elle fait des rencontres. Et toutes ces scènes SF, de science-fiction, j'ai bien dit SF et pas SM, parce que Ludo est en train de me regarder avec un fouet, se passe en fait avec un trait de crayon qui est absolument merveilleux, qui amène dans un univers qui est vraiment de la science-fiction, et pourtant le personnage de Druna dégage une sensualité. Enfin, je m'y arrête beaucoup dessus parce que je pense que c'est la seule et unique fois de ma vie où une image, pour moi, valait des mots. C'est autant à ce point-là, au niveau de l'érotisme.
D'accord.
C'est-à-dire que.
D'ailleurs, à la fin des bouquins.
Oui, il y a les croquis.
Il y a tous les croquis et toutes les planches et les dessins et les esquisses. Ça prouve, c'est vraiment un artiste plasticien. Mmh. Alors, c'est un bédiste, mais c'est aussi un artiste qui a fait tout un travail graphique autour des corps.
Ça se fait souvent, j'ai l'impression, dans l'érotisme.
Oui, de plus en plus.
Même dans la BD en général. Ouais. Et puis tu dis sensualité, et moi juste en feuilletant comme ça, puissance aussi.
Ah hein, oui, c'est... Oui, après c'est pas... Ouais, moi ce qui me plaît, c'est que c'est pas non plus à toutes les pages du sexe, et du sexe, et du sexe. C'est que ça... Alors quand il y en a, c'est pas suggéré, hein. C'est entendu. Il y a des scènes de viol, il y a des scènes qui sont quand même assez...
C'est assez violent quand même.
Assez, assez violente, mais malgré tout... La façon dont Serpieri l'amène, il y a aussi ce petit côté dérangeant, hein, parce que c'est agréable à voir malgré tout. Pourtant, elle se fait malmener parce que forcément, pour avoir ce sérum, elle va coquiner avec un médecin dégueulasse qui va user de, enfin voilà, qui va lui demander des faveurs en échange. Enfin, et il y a des créatures aussi qui vont par moments la prendre. Enfin, il y a quand même des choses qui sont pas belles, mais la façon dont c'est amené, je sais pas, il y a un côté, je vais pas dire poétique parce que ce serait exagéré, mais c'est constant, c'est-à-dire qu'à chaque planche, il y a une continuité entre la science-fiction et l'érotisme. Et il n'y a pas trop d'érotisme non plus.
C'est pas de l'érotisme gratuit pour faire de l'érotisme.
Il pourrait même enlever l'érotisme. En fait, pour amener les scènes de sexe, ça passerait. Ouais. Moi, j'aurais autant apprécié, je pense, Runa sans les scènes vraiment sexuelles. Parce qu'après, elle se trimballe, elle est toujours pauvrette, elle a toujours juste un petit slip et un bout de débardeur déchiqueté. Hein, donc,
Elle n'a pas froid.
Mais elle n'a pas froid. Non, ou alors elle se plaint pas. C'est pour ça qu'elle est parfaite. C'est la seule femme qui ne se plaint pas.
C'est peut-être en laine aussi. Un slip en laine.
C'est ça, une damar.
Ouais. Il y a 8 volumes. Donc Morbus Gravis, Morbus Gravis 2, Druna, Creatura, Carnivora, Mandragora, Aphrodisia, La planète oubliée et Clone.
Et les origines et Anima.
Voilà, après il a fait des livres de dessin, de croquis, où on a la recherche de Druna, Druna X, Druna X2, croquis parfait. De femmes en plus. Oui. Et il y a un jeu vidéo qui est sorti, apparemment. Donc, un jeu vidéo, Druna Morbus Gravis, basé sur le personnage de la plantureuse héroïne.
Oui, ça doit être. J'espère qu'il l'aurait avec l'Oculus pour pouvoir.
C'est ça. 1 million d'albums vendus, traduits en 20 langues, ce monsieur. C'est énorme.
Ah, bah oui.
Ouais.
Non, mais c'est un classique parmi les classiques. Quand la médiathèque départementale de Lozère nous a fait la sélection, quelque part, je me suis dit, tiens, il faut qu'il y ait ça dans la sélection, c'est parce que c'est
Mais Nico a dit, je le prends pas parce que je connais.
Oui, oui.
C'est vrai?
Oui, mais moi, je les ai à la maison. Ça fait partie des classiques. C'est des classiques.
Je connais pas.
Tu as Astérix, la BD, et après, tu as
la BD érotique.
Mais c'est aussi parce que.
Parce que les dessins sont très beaux. Chaque planche, tu passes 5 à 10 minutes à regarder la planche, tellement il y a de détails, il y a de choses extraordinaires. Et puis le texte est vraiment intéressant. C'est une vraie aventure. Tu suis l'aventure. C'est pas une.
C'est le début de l'SF film 1980. On est dans Star Wars.
Ça a commencé déjà Star Wars.
C'est 74. C'est pas 77.
Total Recall. On n'est plus sur Total Recall. On est plus sur des univers.
Ça fait penser à l'univers de Total Recall. Tout à fait.
C'est beaucoup plus gore quand même. C'est la fin d'un monde où tout disparaît, où tout est complètement sali, quoi.
Ouais. Puis il y a le côté animal parce que dans Total Recall, tout c'est plus robotique. Enfin, c'est plus.
Oui,
c'est robotisé.
Oui.
Là, on a quand même.
Là, c'est quand même un monstre. Oui, mais il y a quand même des monstres, tu vois, des personnages avec des tentacules,
des trucs un peu dégueulasses. Des pustules et tout un tas de trucs, je disais, qui se terminent.
Ils sont un peu malsains.
Ok. Ouais.
Et merci. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est. De commencer une émission qui parle d'érotisme et de livres, si on ne parle pas de Serpieri ou de Manara.
C'est vrai. On ne parlera pas de Manara.
On
n'en
parlera pas, oui, parce qu'on a parlé de Serpieri. Donc l'année prochaine, quand on refera une émission.
Mais d'ailleurs, tu as parlé du parfum tout à l'heure dans le dernier bouquin de Serpieri. C'est un clin d'œil qu'a fait Manara dans le parfum de l'invisible de Manara.
D'accord.
Voilà, c'est un clin d'œil.
Ok. C'est quelle maison d'édition? Parce que j'imagine que ça a été sorti, réimprimé.
Je crois qu'après il a changé.
C'est des beaux albums.
Ouais. Oui. Je crois qu'après il est parti de mémoire, mais là t'as Glénat, mais après je crois qu'il a changé quand il a changé de ses auteurs. Mais c'est vraiment quelqu'un qui aurait envie de lire de la bande dessinée érotique, mais sans non plus assumer le fait d'avoir dans sa bibliothèque que de l'érotisme, il commencerait par Serpieri, ce serait une bonne entrée en matière, parce qu'on n'est pas sur de la vie réelle, on n'est pas sur...
D'accord, très bien.
Donc voilà.
Ça suffit pour cet auteur.
Eh bien, je m'arrête.
Merci beaucoup, Valérie.
Avec plaisir.
Allez, si on parle de littérature érotique, on va parler de manga quand même, parce qu'on sait que les Japonais...
aiment ça.
Sont friands.
Sont friands. Voilà, je cherchais... Le bon mot. Je vais vous parler. Si vous entendez Valérie, c'est que j'ai donné des mangas. Il y a 5 tomes de Elle ne rentre pas, celle de mon mari. C'est un manga de l'autrice Kodama, illustré par Yukiko Goto. Alors, il s'agit de l'adaptation d'un roman autobiographique qui a dépassé les 130 000 exemplaires vendus dès sa sortie, qui a été adapté également sur Netflix sous le titre My Husband Won't Fit. Donc, c'est l'histoire réelle de Kodama, qui dans ce manga devient Sachiko Tori. Donc, Sachiko Tori, elle a quitté sa campagne natale pour aller à l'université. Donc, elle aménage dans une résidence un peu pourrie, hein, complètement, mais elle est contente de quitter sa campagne, ses parents, tout ça. Et elle fait la connaissance le premier jour de Shin Kuramoto, un étudiant en deuxième année dans le même établissement. Alors lui, direct, il est sans gêne, il arrive, il s'incruste, il rentre dans la chambre, il regarde la télé, il lui dit bah, « je vais te présenter un peu où se trouve le supermarché, où est-ce qu'on peut manger, tout ça ». Et il tombe rapidement amoureux, ils sont troublés, elle est attirée par ce personnage qui a un comportement un peu imprévisible, donc rapidement ils commencent à sortir ensemble. Mais la nuit venue, alors qu'ils s'apprêtent à faire l'amour, le couple se retrouve face à un problème de taille.
Je crois que j'ai le problème de taille.
Voilà. La taille du pénis de monsieur, peut-être, on ne le sait pas vraiment, on ne le saura jamais, sauf qu'on sait qu'elle ne rentre pas. Celle de mon mari. Alors, les cinq tomes tournent autour de la vie de l'autrice, de sa première année à l'université, donc on imagine une vingtaine d'années, à l'âge de 40 ans à peu près, ça se termine à 40 ans, au moment où elle publie ce roman à compte d'auteur et qui commence à marcher. Donc on revient de temps à autre sur le problème de couple qui a des incidents sur la vie de la jeune fille parce qu'elle se sent pas normale, elle se dit mais c'est pas normal, ça marche pas. Du coup aussi elle peut pas avoir d'enfant, donc on imagine dans les sociétés japonaises où on se retrouve en famille et toi tu n'as toujours pas d'enfant, tu veux pas en avoir, qu'est-ce qui se passe? Elle peut pas dire non j'en ai pas parce que elle ne rentre pas celle de mon mari, ça ne se dit pas au repas de famille.
Juste, je fais une pause publicité. Vas-y. Les enfants s'il vous plaît, c'est l'heure d'aller au lit.
Mais déjà, il devait aller au lit dès...
Non, mais j'avais oublié de leur dire le thème de l'émission de ce soir.
Ah, d'accord.
C'est Ludo qui a choisi.
Non, c'est Claire, tu n'as pas entendu
c'est
mon
Claire
introduction.
C'est Claire qui a choisi. Je ne t'écoutais pas, je regardais un manga.
D'accord. Ouais, que Pauline a dit à ses enfants d'aller se coucher quand même.
Justement, ils sont tout petits.
Ah, oui. Donc voilà, en fait, on voit l'évolution professionnelle de Sachiko, qui est enseignante pour enfants au tout début, enseignante pour enfants un peu plus âgés, à l'arrêt de sa carrière d'enseignante, parce qu'elle se sent pas bien dans sa vie, à une maladie auto-immune, à des relations extra-conjugales pour se prouver qu'elle est normale, à la découverte que son mari la trompe, et chaque tome, alors ça c'est intéressant.
C'est le jeu de mots, son mari la trompe ou...
Oui, ben oui, non, mais c'est travaillé quand même, mes chroniques, Valérie, bravo. S'il te plaît. Donc chaque tome se termine par une correspondance épistolaire entre l'autrice et l'illustratrice. Donc c'est super intéressant où elles se sont jamais rencontrées ou vues une fois pour le démarrage des mangas avec les premières planches que l'autrice a vues. Et donc elles ont un peu une sorte de... elles sont fières l'une de l'autre, en fait, de leur travail. Et donc, y a un peu de timidité où elle dit « j'ai pas osé vous parler, j'espère que j'ai vu que les dessins vous ont plu, mais est-ce que ça vous a vraiment plu? Je vais peut-être revenir, ça serait bien qu'on mange une glace ensemble ». Et donc, il y a des réponses. Et ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce rapport entre l'autrice et l'illustratrice. Et en fait, l'histoire est bien quand on sort de l'histoire du couple, qui finalement revient, mais pas tout le temps, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est après la vie de cette femme, ce qu'elle fait dans la vie, comment elle est touchée par ce problème sexuel qui engendre des problèmes relationnels et comment finalement elle arrive à s'en sortir et à dire à 40 ans, bon, mais j'aurai pas d'enfant, on peut pas le faire, c'est comme ça et ça prend 20 ans quand même. C'est une grande psychothérapie sur soi qu'elle fait sans aller voir personne. Et voilà, et donc c'est un roman, mangas qui sont assez bien notés.
Moi, elle a 35 ans, mais en fait, finalement, à part les trois premières planches qui m'ont choquée, après, c'est tout mignon. Ça raconte.
Voilà. C'est ce que j'allais dire, la couverture du tome 2.
C'est interdit au moins de 16 ans, quand même. Hein.
Oui, mais parce que les trois premières pages, elle ne rentre pas celle de son mari. Mais après, c'est tout mignon. Mais en même temps, c'est qu'une fois par an, a priori.
Après, au bout d'un moment, c'est qu'une fois par an qu'ils essayent, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, donc ils le font le jour du 31. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent que même le jour du 31, ça ne sert à rien.
D'accord.
Okay. Donc on arrête. Oui, un peu d'érotisme, c'est pas... Voilà, je vais vous présenter un autre livre tout à l'heure qui sera un peu plus olé-olé, mais celui-là, non.
Je crois que t'allais dire rentre dedans.
Ouais, voilà. Voilà, mais oui, c'est moi qui n'ai pas l'habitude de lire des mangas et des mangas qui peuvent être à connotation érotique, mais bon, apparemment, ça a été un succès en librairie, c'était un succès sur Netflix... Voilà, c'est suivi.
Ah, il y en a animé aussi.
Non, je crois que c'est en série. Hein.
C'est un film avec des...
Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir.
Parce que les mangas, il y a souvent des... Enfin, quand même, il y a quand même un fil rouge avec la sexualité. Même sur... Mais même sur le dessin des mangas, il y a quand même souvent de la sexualité. Même dans les mangas d'horreur qu'on regardait l'autre jour.
Oui, même dans les mangas d'ado, c'est hyper sexualisé.
Toujours la sexualité.
Les mangas.
Ouais. Mais je vais aller voir, savoir si c'est un animé ou si c'est une série ou si c'est un film avec des acteurs, le temps que Nico nous présente son prochain livre de Jean-Louis Tripe qui s'appelle Extase.
Jean-Louis Tripe, qui est un journaliste, dessinateur aussi, qui a fait pas mal de choses. En fait, Extase, moi je l'ai découvert par hasard, mais dans une librairie, je crois à Paris. J'étais un peu étonné que cet auteur se livre à ce travail-là, Extase. Alors le sous-titre c'est « Où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la forme d'un X ». Il y a deux tomes.
Il n'a jamais regardé.
Ben, c'est ça, en fait. Parce que ça démarre quand il est adolescent. Et ça finit aujourd'hui. Enfin, voilà. Un homme d'une cinquantaine d'années aujourd'hui, qui a décidé, par un curieux hasard, en fait, de parler de sa propre sexualité. Donc, en fait, il raconte sa propre histoire. De la découverte, en fait, du sexe, aussi de la femme, de la représentation, jusqu'à toutes ses expériences. Ces expérimentations, c'est vraiment un bouquin sur les expériences. Alors, ça va très, très loin. À la fois dans la discussion, parce que c'est vraiment une BD qui est avec beaucoup de personnages. Donc, il y a lui, hein, Jean-Louis, qui est là, et puis toutes ses relations. Alors, en fait, il a pris le soin de construire une espèce de mise en scène. C'est sa vie, c'est son histoire, c'est lui qui est dedans. Hein. Ça lui a posé d'abord un gros problème de se dire mais comment ma famille va prendre ce bouquin, sachant que c'est moi qui y a dedans, c'est toutes mes histoires, toutes mes conquêtes, et comment je vais pas non plus dévoiler les gens avec qui j'ai eu ces relations, etc. Quoi. C'était un peu compliqué. Quoi. Donc en fait, il a transformé les blondes sont brunes, etc. C'est pas les mêmes personnages exactement. Donc celui qui connaît Jean-Louis Tripe, il essaye de rechercher avec qui il aurait pu coucher, etc. Il peut pas trouver en fait. Hein. Donc ça a été bien fait. Il a mis quand même pas mal de temps à le faire. Il parle.
Là, il couche tout seul.
Alors là, il couche tout seul, ouais. Non, il couche avec des garçons en fait, parce que c'est aussi des expériences qu'il va faire. Okay. Il découvre l'amour aussi avec des garçons, en se culpabilisant, tout ça, en se disant bah, « c'est moi, c'est pas moi ». Voilà, en se posant toutes les questions. En fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on découvre en fait l'univers sexuel d'un homme. Donc, c'est un bouquin que je recommande aux hommes. Je recommande aussi aux femmes, parce qu'elles vont comprendre à travers ce livre qui est finalement extrêmement psychologique, qui est très sexuel, hein. Mais avec des dessins qui sont drôles, parce que les personnages sont tout en rondeur, c'est assez bien foutu. Y a beaucoup de détails, hein, mais il y a aussi beaucoup de parallèles. Voilà. À un moment donné, il est dessiné en diable, il est dessiné en pervers, il est dessiné en dragon, il est dessiné... Voilà, il se transforme, parce que en fait, c'est ce qui se passe vraiment dans sa tête. Et ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de tabou, en fait. Il parle de ce qu'un homme ressent, de ses fantasmes, de comment il perçoit les choses, de ses envies, de ce qu'il dit, de ce qu'il dit pas, de ce à quoi il rêve. Et ça va très très loin en fait, très très loin dans ce bouquin. Donc c'est vraiment un bouquin, alors c'est pas à mettre entre toutes les mains, bien sûr, mais je pense que c'est un bouquin qui est très très intéressant à lire, parce que il parle d'abord de la psychologie masculine, il parle aussi de phénomènes sociologiques dans lesquels on se retrouve plus ou moins, des choses dont on ne veut pas parler entre hommes, des choses dont on parle aussi assez facilement, avec des fois avec beaucoup de pudeur, des fois en se moquant, voilà. Le rapport aussi chez les hommes à la taille, au sexe, tout ça, au fait qu'on se jauge en fait sans arrêt, quoi. On est dans une société sans arrêt en train de se comparer. Et voilà. Et ces bouquins, donc il y a deux tomes. Le premier tome, c'est de l'adolescence jusqu'à au moment où il découvre vraiment l'amour, ce que c'est, les orgasmes, l'orgasme féminin, etc. Et en même temps, je trouve que c'est un bouquin qui est vraiment intéressant, parce que c'est aussi le rôle de la femme là qui est essentiel dans ce film, dans ce bouquin, et qui en fait est pas juste l'objet de son désir. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est comment il se construit, lui, en tant qu'adolescent, en tant qu'homme, avec tous les préjugés sociaux qu'il a, et comment il va évoluer avec ça au fil du temps dans ces deux tomes, et comment il grandit, et comment la femme est perçue comme l'objet de son désir au début, et après, elle apparaît comme...
C'est uniquement centré sur lui, c'est pas comment la femme le perçoit aussi, c'est vraiment lui. Le deuxième
tome, c'est l'originalité de ce truc, parce que je pense que si on prend tous nos bouquins là, le personnage central c'est toujours une femme, je pense.
C'est vrai.
Je le réalise là maintenant que t'en parles.
Chez moi, oui.
Ou alors la figure masculine, c'est.
C'est intéressant ce qu'elle dit, Pauline.
Tout à fait.
Je pense que si on prend, et là on en a quand même quelques-uns sur la table.
Une fois par an, le personnage principal est une femme.
Alors non, après, c'est une fois par an.
Bah parce que dans beaucoup d'autres émissions qu'on a fait sur beaucoup d'autres thèmes, c'est pas forcément.
Mais sur l'érotisme.
Non, mais justement, c'est intéressant de soulever.
Le personnage principal est très souvent une femme. C'est particulier le livre dont il nous parle. Je pense que. On n'en trouvera pas beaucoup qui ont ce point de vue-là, le point de vue de l'homme qui fait le bilan de sa découverte de la vie sexuelle.
C'est vrai. C'est vrai.
Et pourtant, sur les femmes qui découvrent leur sexualité, je pense qu'on en a à la peine.
Parce que c'est vachement plus complexe aussi.
Et puis peut-être il y a une grande liberté des femmes. C'est peut-être un domaine où on a la chance d'être un peu plus libre. Pour une fois.
Voilà, c'est ça. On n'a pas le droit d'avoir un autre propre compte en banque, tout ça. Voilà, certes, oui. Mais
on peut parler de...
Si, depuis 74, tu peux...
C'est vrai ?
Ouais.
Oh putain.
On te l'a pas dit ?
Le salaud. Mais
non. Ouais.
74.
Appelle ton mari.
C'est longtemps.
Par contre, c'est vrai ce que tu dis. En même temps, dans Serpieri, il parle de lui. C'est-à-dire que l'homme est hyper présent, mais l'homme est quand même l'esclave de cette femme qui est... On ne peut pas résister à cette femme. Donc en fait, c'est aussi une forme, mais elle n'est pas directe. Là, c'est vrai que c'est lui qui est en scène et lui, l'auteur, il dit voilà, je suis ça. Au début, par exemple, il dit
je mangeais des maïs grillés autour d'un micro.
Et ça faisait.
Je savais que j'allais me lancer dans une histoire racontant ma vie sexuelle. Putain. Bon donc, que seules quelques personnes savaient. Va maintenant se retrouver sur la place publique exposée aux quatre vents. Comment faire, comment raconter cette histoire sans la réduire à un vain étalage de bites et de culs? Et surtout, est-ce que j'étais capable d'assumer ça? C'est-à-dire, en fait, d'assumer qui je suis. Et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait de rien d'autre que cela, un coming out. Comme le gars qui annonce à ses parents, à sa famille, à ses collègues, à ses amis, qu'en fait, il est gay, quoi. Voilà, c'est comme ça. Je suis celui-là. Je suis cela. J'ai décidé de m'avancer sans masque, nu. Je n'en tire aucune gloire, mais je n'en ai aucune honte. Voilà qui je suis. Au cours de ces 6 mois qui suivirent, je me fis un devoir de dire, sans faux fuyant à ceux qui me posaient la question, quel était le thème de mon livre. Et suis un vrai travail salutaire, un lent mais nécessaire chemin d'appropriation. Au travers de ces conversations et des échanges avec mon éditrice, Christine Kam, j'ai petit à petit commencé à comprendre ce que j'allais faire et ce que, cher lecteur, tu vas lire. Ah, autre chose, tout ce que je raconte dans ce livre est vrai. Bien sûr, il y a une reconstruction narrative, une mise en scène, etc. Et il dit à la fin, la postface donc, et plus aucune personne ne me vint. J'étais ailleurs, dans une autre dimension, dans une félicité ardente, fusionnelle et céleste. Une abolition de toutes les peurs, un apaisement de tous les doutes, un refuge. Et si ce dernier continent à explorer était celui de l'intime ? Les relations amoureuses, les pratiques sexuelles, les émotions, les sensations, les sentiments, comme autant de territoires à arpenter, à cartographier. C'est ça, parce qu'il parle vraiment du sexe comme faisant partie du corps, mais aussi de le positionner dans le corps.
Prends pas trop de temps que tu dois parler de Blanche-Neige après, Nico.
Voilà. Bon, moi, je vous le conseille parce que je trouve que c'est vraiment des bouquins à lire. Bon. À l'âge adulte, hein, voilà.
Voilà, c'est adulte. Mais de toute façon, quasiment tout est adulte hein, sur ce qu'on présente.
Pas avant, parce que c'est quand même un peu...
On va voir Pauline.
Après, comme on est dans le thème, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Hop.
Rebondis pas trop, quand même.
Ouais.
Ou t'as dit que... T'as parlé d'un truc sur les plantes, tout ça, donc je me permets de rebondir. Non, quand tu disais que dans Serpieri, c'était la femme qui était un peu le...
Le fantasme ?
Non, tu disais enfin, qui était maître, je ne sais plus. Enfin, pour moi, elle est Druna, elle est quand même hyper soumise à son amoureux qu'on ne voit pas. Ah. Parce que quand même, toutes ses aventures, elle pourrait se mettre à l'abri et vivre une vie à la cool. Non, elle va passer sa vie à se foutre en danger pour récupérer du sérum pour que monsieur se transforme pas en
point de vue de femme, ouais, point de vue d'homme.
Voilà. Mais c'est le centre, merci Valérie.
C'est le centre du bouquin, c'est cette femme.
Oui, mais cette femme qui va tout faire, qui va vendre son corps.
Mais c'est un objet, mais c'est pas ce que j'ai dit.
Oui, mais c'est pour ça qu'on parle. Faut relativiser.
Non, voilà. Non, mais en fait, je parlais pas de ça. Je parlais de Jean-Louis Tripp, qui lui, là, se met en scène, parle de lui. Serpieri parle pas de lui.
Il parle d'un
personnage qui est vraiment une femme, et c'est la femme qui est au centre de sa préoccupation. Pour lui, mais même pour lui, Serpieri, c'était un fou de sexe.
Ça, je ne sais pas, on ne s'est pas croisé, il était beaucoup trop vieux.
Je ne sais pas, merci, on va continuer cette émission, parce que là, vous parlez beaucoup, hein, vous êtes intéressé par le sujet, c'est très bien, mais on a beaucoup à dire, notamment Pauline qui va nous parler d'un endroit formidable. Alors je retrouve on va parler des Gorges du Tarn.
Bah ouais,
et voilà. Et oui, avec un écrivain aveyronnais, Manu Cosse. Il va nous parler du point sublime.
Alors moi,
dites-moi que tout est faux, tout ce qui vient d'être dit.
Non.
Non, c'est vrai.
Alors moi, je vais dire fausse lausérienne. Ça fait quand même 10 ans que je suis là, mais quand j'ai vu le point sublime, j'ai absolument pas pensé aux Gorges du Tarn, pas une seconde. Ceci dit, c'est quand même une analogie. Le point sublime, oui. Des gorges, le point sublime.
Des gorges aussi.
Des gorges.
C'est ça.
J'ai pas compris.
C'est pas grave, mais on se comprend.
Des gorges.
De quoi ?
Tu dis ? Faut expliquer au bout d'un moment. Moi, je comprends plus.
Non, non.
Alors, bref. Le point sublime dégorge. Dégorge en deux mots.
Ah, il dégorge.
Oui, quand tu le mets à la machine à laver, il
dégorge. Ah, non, il ne dégorge pas. On est dans la thématique. Le point sublime dégorge.
Mais on est dans la thématique.
C'est une triple analogie.
Ça veut dire que faites ça à trois.
Oui, c'est ça.
Moi,
c'est pas grave. Allez, on va parler d'adolescence. Laissez parler Pauline.
Dingue. Je pense que c'est le seul livre. Alors, je vais pas dire érotique. Pour ados, dont on va parler aujourd'hui, il faut le dire que c'est pour ados, parce que moi je ne le savais pas en l'ouvrant, et je vous avoue que pendant à peu près 250 pages, j'étais un peu mal à l'aise, parce que, et ça je le dis très rarement, c'est un livre pour ados qui n'est pas pour les adultes. Très franchement, si un adulte le lit, il se sent mal. Comme, je pense, un ado qui lira un livre érotique pour adultes se sentira un peu mal à l'aise, parce que on vit pas la même sexualité, parce que on n'a sûrement pas les mêmes fantasmes, les mêmes esprits, etc. Donc je vous avoue que, en ne sachant pas, je suis très douée pour me mettre dans la peau des ados quand je lis, c'est mon métier, et là je savais pas qu'il fallait que hop, je mette ma peau d'ado, et du coup au début je me suis dit, mais qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que veut nous raconter Manu Cosse? Qui nous raconte donc cette histoire? C'est alors un scénario complètement banal. Mina, elle a 25 ans. Elle prend la voiture pour retrouver son lieu de vacances chez sa grand-mère, Luna, qui était un petit peu hippie, un peu dans les Gorges du Tarn. Donc ça, c'était assez rigolo, parce que c'était une surprise. Donc aux granges, à côté de... J'ai regardé il y a 5 minutes, j'ai oublié. Bref, de Fontan. Ah. Et sur le trajet de la maison de sa grand-mère qui est aujourd'hui décédée, elle va se rappeler de son enfance et de son éveil sexuel. Elle va se rappeler de son éveil sexuel à partir de ses, allez, on va dire...
9 ans, je crois, non, un truc comme ça.
Ah
non,
ouais,
non.
J'aurais dit même plus petite.
Ah, c'est peut-être plus petite.
C'est-à-dire qu'elle va aborder toutes les questions, je pense, qu'un ado peut se poser. Tous les thèmes, il, d'ailleurs c'est Manu, je suppose, Manu pour un homme, c'est-à-dire que ça parle de la masturbation avec le petit nounours quand on est tout petit.
Moi, ça me gêne, les livres comme ça.
Alors, ça m'a mise très mal à l'aise, ouais. Parce que...
Oui, mais Dolto dirait, c'est le stade anal, le stade machin.
Oui, mais
stade...
Dolto, mais voilà, mais... moi, je suis pas Dolto. Hein.
Tu vois, au début, donc il y a cette histoire-là, la petite fille voilà, qui utilise son petit doudou, et ses parents lui disent, ou qui découvre le zizi du copain d'à côté, et qui joue avec le zizi du copain à côté, et sa maman, qui est totalement prude, totalement mal à l'aise avec ça, va lui dire, c'est sale, etc. Et Manu Cosse a envie de dire non, ce n'est pas sale. Rends-toi compte que ce n'est pas sale, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et j'avoue que moi, en tant qu'adulte, au début, ça m'a mise très mal à l'aise. Et pourtant, je croyais que j'étais quelqu'un d'ouverte à cette idée. Bah, finalement, je me rends compte que peut-être pas tant que ça. Et donc, voilà, ça va continuer comme ça.
Et t'as cherché pourquoi ça te gênait, ça?
Elle l'a dit, parce qu'elle savait pas que c'était un livre pour...
Ouais, il y a peut-être pas que ça, il y a peut-être que...
Non,
que c'est une période qu'on oublie, que c'est...
C'est pas un truc qu'on refoule, ça?
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Oui, ou qu'on refoule, oui, même, plus que qu'on plus refoule, qu'oublier, qu'on ouais, refoule.
On s'est culpabilisé, mais
c'est judéo-chrétien, en plus.
Ah, bah, oui, je pense qu'il y a une tradition, voilà, une culture omniprésente qui nous fait dire, bah, comme sa maman, bah, c'est un peu sale, oh, on se cache pour faire ça, ou on le fait pas du tout, et puis on fait semblant de ne pas le faire, etc. Donc ça part de sa vie toute petite et de tous les passages où sa vie a été sexuelle. Découverte de son corps, ça parle du consentement, voilà. Elle vit ce qu'aujourd'hui on reconnaît clairement comme étant un viol, mais ce qui à 5 ans était considéré comme « Oh, bon, elle a pas vraiment dit non, mais elle a pas vraiment dit oui.
Ouais, »
Voilà, ça parle de d'échangisme, ça, enfin vraiment... C'est hyper vaste, ça passe par plein de thématiques, mais ça parle aux ados. Alors parfois c'est très cru, j'avoue que je ne sais pas si c'est à mettre entre toutes les mains d'ados, ou peut-être, moi j'imagine un ado ou une ado qui a déjà vécu des expériences et qu'on a envie de... d'ouvrir, je sais
c'est
pas.
C'est très dur à conseiller. Si en tant qu'adulte, tu as du mal à le lire, pouvoir le conseiller à des ados...
Ouais, je pense que c'est un ado qui doit se l'acheter tout seul. Mmh. Voilà, s'il en ressent le besoin.
Oui.
Sauf qu'on en avait déjà parlé de cette maison d'édition de l'Ardeur. Marlène en avait parlé avec Queen Kong Theory.
Ah oui, je m'en rappelle.
Voilà. Mmh. Et c'est une maison d'édition, enfin, moi, librairie, j'ai pu le...
C'est Thierry Magnier à la base, c'est une collection de Thierry Magnier.
Voilà, et c'est, c'est la série de l'Ardeur.
Eux, ils disent moins de 15.
Ouais, et c'est vraiment particulier. Et tout leur titre, là, c'est vraiment un gros...
Interdit aux moins de 15. Interdit, pardon.
Pour les moins de 15.
Non, non, pas les moins de 15.
C'est pour toi.
Ouais, moi, j'aurais dit à partir de 14-15,
ouais, il y a quand même une... Enfin, moi qui ai une ado qui rentre totalement dans... En théorie, peut lire ça, qui lit de la New Romance...
Oui.
Voilà, là, on est trop... Enfin, pour moi, on est trop dans cette série L'Ardeur, sur des choses trop... Peut-être trop crues. Trop crues. Pourtant, je veux dire, quand ils lisent leurs histoires de...
Bah, les mangas, notamment.
Ouais, les mangas, ouais, mais les même mangas. C'est la série dont je parlais tout à l'heure.
Bridgerton
et compagnie. Je veux dire, tout le monde couche avec tout le monde. Enfin, c'est...
ouais, mais tu vois, moi, je pense à cette génération qui a lu Christian F.
C'est ça.
Moi, alors, bon, ça va peut-être rien vous dire, mais le journal de Laura Palmer dans Twin Peaks, quelque chose, pareil, de très cru. Et je pense que quand t'es ado et que t'as besoin de te dire, est-ce que d'autres vivent la même chose que moi? Est-ce que... Et que t'as personne avec qui en parler, comme Mina dans ce livre, hein, c'est-à-dire que sa mère, elle est tellement coincée que... Enfin, coincée, j'exagère, en fait, elle est comme... Non,
oui, mais t'as les copines pas coincée. Après pour...
Eh ben, elle a une copine avec qui elle se lâche complètement et ça devient presque trash, leur conversation. Mais je pense que beaucoup d'ados, peut-être, ou certains ados, ont ce langage-là dans l'intimité, entre copains, entre... Et peut-être que aborder, effectivement, le consentement, aborder... tous ces thèmes-là, ce que c'est le désir sexuel, ce que c'est... dire oui sous la contrainte ou dire oui parce qu'on en a envie, que c'est pas inutile. Après, la façon de faire passer le message est hyper cru, parfois hyper cru, pas toujours, mais parfois hyper cru. Bien voilà, c'est très délicat.
Mais est-ce que l'ado, il va avoir la pertinence de se dire, bon, je lis ça et je me fais ma propre médiation culturelle derrière.
Elle sait pas, c'est une adulte, elle arrive pas à rentrer dans la peau de l'ado qui
fait
ça.
Oui, mais c'est ça qui est compliqué.
Parce le message est très clair. C'est-à-dire que le message, il est principalement fait passer par sa grand-mère, donc un peu une hippie, qui va lui dire, bon, bah là, t'as couché avec un garçon dans les toilettes. Visiblement, tu ne voulais pas. Tu as été violée, ma fille, ma petite fille. Voilà. Les messages, entre guillemets, sont assez clairs. Donc, je ne sais même pas s'il y a ce besoin de médiation. Enfin,
Alors, ce qui est étonnant, c'est que Manu Kos, c'est pas du tout le style de livre qu'il écrit. C'est un des seuls.
Alors, j'ai pas regardé du tout son profil, mais le nom me disait quelque chose. Il a écrit.
Mais en fait, c'est un auteur de nouvelles, de pièces de théâtre, la fête à Fred, de romans français bilingues, beaucoup de livres de jeunesse, Les fils de Georges en 2016. En 2016, il fait des interventions dans les collèges. Il a tourné sur des lectures spectacles musicales avec l'écrivaine Emmanuelle Urien. Et voilà, normalement, il est pas trop dans ça. Il est dans la littérature jeune public, mais pas dans ce style-là. Il a rien écrit de Nos cœurs tordus, qui a eu quelques prix.
Oui.
Voilà, prix Gulli du roman. Alors, quand on connaît Gulli, on se dit, il y a peut-être un problème. il a eu aussi le prix Jeune lecteur du Liban et le prix de l'océan Indien pour Nos cœurs tordus. Voilà.
Mais voilà, alors je sais pas, oui, qui peut acheter ce roman, à qui?
Eh ben, on va trouver une ado, on va lui faire lire et elle viendra nous en parler.
Je pense qu'il faut... non, même pas.
Non, c'est pas
rentrer dans ma maison.
Je pense que c'est un livre que tu lis dans ton quand t'es ado, dans ton lit le soir.
Oui, mais comment est-ce qu'il arrive?
Eh oui, comment vois, il arrive dans les mains d'une ado?
C'est ça qui est compliqué parce que tu l'auras pas au CDI.
Non.
Tu vas peut-être difficilement l'avoir en bibliothèque et c'est un gros livre, donc potentiellement pour l'acheter, il faut.
Voilà, c'est ça. Comment il arrive dans les mains des ados?
Bah, tu te prostitues.
Je pense à Reasons Why,
il n'arrive
qui est pas du tout sur le même ton, oui, mais
peut-être que c'est un livre qui ne se vend pas.
Qui est ce sujet un peu délicat à aborder là? Bon, Certain Reasons Why, c'est le suicide. Mais il y a des il y a du viol, il y a etc.
Tu as 13 raisons qui ont poussé ce gamin
jeune fille à se suicider. Mm-hmm. Je me dis que c'est des livres. Quand je vois les profils d'ados à partir de la 4e, 3e, eh ben je me dis que peut-être on a du mal à l'accepter, mais peut-être qu'ils ont besoin de livres comme ça. Si ça se trouve, je me trompe, mais on le saura jamais parce que c'est très difficile d'en parler avec eux.
Il faut, je pense qu'il faut leur imposer.
Ouais. Voilà, on va enquêter, on va faire une pause musicale surtout parce que après on va parler un peu de Princesse Blanche-Neige, tout ça, Disney, Nico, il va nous faire un peu rêver parce que là c'est un peu trop violent cette émission. Valérie a choisi la pause musicale, on va écouter Philippe Catherine.
Jamais.
Bah si, c'était toi.
La banane.
La banane.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi. Tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever. Non, mais laissez-moi. Tout nu sur la plage. Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Manger ma banane. Que de pas finir ma banane.
Si tu entends le truc.
Tu lui mettras un coup après, arrête.
Allez. Mais quelqu'un a vu Pauline? Mais elle a disparu pendant la.
Avec tout ce que vous avez raconté, bande de vieux pervers dans la pause là.
Non, mais dites rien, c'est pas beau, elle n'est pas là. Elle va revenir.
Pervers, oui, mais vieux, on t'exagère.
Ouais, c'est vrai. Allez, on va parler un peu de féerie avec Blanche-Neige. Nico, alors pourquoi Blanche-Neige?
Blanche-Neige.
Alors, mais on va passer vite.
Moi, j'aurais bien intitulé ça l'histoire de Blanche-Fesse et les sept mains, quoi.
Ah, Pauline revient, tiens. Je sais pas ce qu'elle est allée faire, mais elle a fini.
Elle est souriante.
En tout cas, elle est souriante.
Êtes-vous sûr de vouloir connaître les histoires de Blanche-Neige et de Réponse?
Réponse.
Rapunzel. Non, mais parce qu'en fait, c'est un truc à vachement à Merloc, tout ça.
Ça va faire mal.
Oui.
En fait.
À Merloc?
Les, ouais, réponse, c'est Monsieur Walt Disney.
C'est Rapunzel.
J'ai entendu la blague de Valérie. Réponse, ça doit faire mal. Voilà, merci pour nos auditeurs qui l'auraient déjà entendu, cette blague graveleuse, et se dire, ah, tiens, il relance.
Je suis concentré sur la présentation.
C'est vrai, tu as raison.
Je vous promets, j'ai honte. Ouais.
Est-ce que les contes de notre enfance ne cacheraient pas une autre histoire, finalement?
Évidemment.
Ouais. Il se pourrait bien que la fameuse Blanche-Neige et que, comme réponse d'ailleurs, cache un autre type de caractère. C'est tout l'objet de ces 8 BD qui sont mariés. Alors j'en ai lu que 2 parce que franchement j'ai trouvé ça franchement pas top, quoi. On va pas pour dire que c'est...
Malgré tout, on n'arrive plus à ouvrir les pages. Ouais,
les pages sont collées. Mais t'es nul, enfin. J'ai pas assez de... Du coup, voilà, dans Blanche-Neige, en fait, on voit surtout les fesses de Blanche-Neige. En fait, elle découvre l'amour. Enfin, elle découvre le sexe. J'ai du mal à en parler. En fait, en plus, c'est abominable parce qu'elles utilisent les sept nains, et notamment le simplet.
Bah oui.
Pour découvrir l'amour, oui. Quoi. Enfin, découvrir pour le sexe, découvrir. Oh, une bite, tiens. Et à quoi ça sert et tout ça. Enfin, c'est vraiment. Mais c'est nunuche, c'est nul. C'est le prince charmant, il a à dégueule bif. C'est le gros salopard qui abuse de tout le monde. Enfin, c'est vraiment la BD.
Mais arrête de parler de ça.
Mais franchement, non. Voilà. Alors, on a de tout, hein.
Lui, il en parle.
Mais oui, j'en parle parce que c'est Blanche-Fesse, là. Donc, le seul personnage.
C'est Blanche-Fesse.
Non, c'est Blanche-Fesse. Mais le seul personnage qui tient à peu près la route, c'est la reine qui est vénéneuse, qui est vraiment celle qu'on trouve dans les Walt Disney, tout ça. Quoi. Voilà, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je ne le conseille pas. Je trouve ça vraiment pas bien. Quoi.
Alors, on ne dit pas l'auteur ni rien. Du coup, on zappe.
Non.
Okay. Non.
Au pilon.
Il y a quand même 8 BD, quoi. C'est-à-dire, ça doit se vendre quand même.
Et ouais. Bon, ben bah écoute, non mais au moins on aurait essayé, c'est bien, il faut tenter. Allez, on va du côté de Barcelone parler de Miguel de Palol pour le Testament d'Alceste, qui est un livre de 2009. On est un peu à la bourre. Alors, le dernier roman du catalan Miguel de Palol.
Miguel, por favor.
Miguel. Invoque rien moins que les 1001 nuits, la Bible et les 120 journées de Sodome.
Alors ça, c'est ce que tu as lu dans Wikipédia, je pense.
C'est ce que j'ai lu sur un site spécialisé qui s'appelle
lire.com.
Wikipédia.
Mais parce que pas du tout. Miguel de Palol, moi, il m'avait scotché avec son premier roman qui était aussi épais que celui-là, qui s'appelait Le Jardin des Sept Crépuscules. Il y avait des histoires dans les histoires, dans les histoires, dans les histoires, où j'ai dû prendre un papier et un crayon pour noter qui était quoi les histoires, parce que c'était trop compliqué. Et au bout de 3 ans, quand j'ai pu le finir, il a fait une suite. Donc, ça s'appelle le Testament d'Alceste. Et le Testament d'Alceste, donc, se passe sur les hauteurs de Barcelone, dans le Mas d'en haut. C'est le grand domaine qui appartient à Toti Costagrau. Et Toti Costagrau, il a des problèmes d'argent, donc il va vendre le Mas, mais il réunit certaines personnes triées sur le volet pour se réunir dans ce Mas pour faire un jeu mnémonique. Alors, c'est aussi le genre de livre où toutes les 10 pages, il faut prendre un dictionnaire parce que tu ne comprends pas certains mots qui sont essentiels, mais c'est pas grave. Donc, c'est le jeu des fragmentations. Donc, il y a des choses très spirituelles derrière. Et donc, ils se retrouvent, tous ces gens. Les gens font connaissance. Il y a une 20aine d'invités à peu près. Et il va y avoir un meurtre. Alozaya va mourir. Alors, dans la vraie vie, les gens appellent la police ou un médecin, et eux, non, décident en fait que grâce à leur récit mnémonique, chacun à son tour va raconter des histoires qui vont s'imbriquer les unes dans les autres et ils vont ramener Alozaya à la vie.
D'où la Bible.
Et là, vous me regardez avec vos yeux en disant, mais oh, bon sang, oh, le thème, c'est l'érotisme, mais parle-nous de...
Fesses.
Parle-nous de... et de grosses...
Ouais, sinon on repart sur Blanche-Neige parce qu'il y avait deux tomes. Hein,
alors, Blanche-Neige, le tome 2, la reine lumineuse.
Ce qui est passionnant dans ce livre, qui est quand même ultra long parce qu'il fait dans les 800 pages. Fine, on dirait du papier OCB finement imprimé et écrit en caractère taille 4 Arial. C'est un Pléiade, mais niveau il est quand même assez long. Il y a toujours ce jeu d'histoire dans les histoires. Donc il y a ce meurtre et chaque personnage va raconter une histoire. Ils ont 5 jours pour ramener donc cette personne à la vie par des jeux justement très. On est très dans le côté un peu illuminati, dans les histoires qui se racontent dans le passé, mais qui rejoignent le présent. Il y a vraiment un côté très, très, très mystique, très fort.
L'érotisme.
Et l'érotisme, en fait, on va le trouver au fur et à mesure, parce que quand même, ce lieu, il est chargé d'histoire. Il est chargé d'histoire, et quand on visite certaines pièces, les gens se désinhibent, ont des rapports entre eux, donc ils sont très, très bien écrits. Et dans les histoires, il y a toujours un moment où dans l'histoire 1, qui va dans l'histoire 2, qui va dans l'histoire 3, il va y avoir, par exemple, à un moment donné, il y a deux personnes, deux jeunes femmes qui se retrouvent un peu en situation compliquée, donc qui se prostituent pour survivre. Et ces deux personnages, en fait, dans deux autres histoires du niveau 1, on va les retrouver. Et c'est des histoires... Alors, ça va très très bien.
Ce livre n'était pas dans la sélection et tu t'es dit tiens j'ai envie d'en parler, je vais rattacher à ça
rien
pour l'incruster dans l'émission.
Non.
C'est exactement ça Valérie Trémolière, je te connais très bien.
Oui, tu me connais parfaitement, tu me connais par cœur. Non mais je ne pouvais pas parler de Blanche-Fesse et les sept mères.
Si.
Je veux dire.
Je les ai pas choisis, j'ai vu ce qui reste dans le carton.
Non mais parce que tu sais
merci,
je vous dois une vérité. Je vous dois une vérité, c'est que quand j'ai ouvert le carton avec la littérature érotique, j'ai pas été fort emballée parce que...
Mais déjà, t'es arrivée en dernière, donc tout a été pris.
Tout était pris, mais j'avais trouvé un vanille fraise chocolat, il y a quelques mois sur la littérature érotique qui m'avait beaucoup plus plu. Et ce testament d'Alceste, effectivement, je l'avais à la maison. Je trouvais ça à la fois mystique et à la fois, il y avait des passages très, très érotiques parce que imaginons quand même, un groupe d'adultes qui aiment jouer à des jeux, qui se retrouvent enfermés dans un mas énorme, avec des pièces suggérant beaucoup de choses, avec enfermés entre eux, sont des adultes, ils sont consentants, donc il se passe énormément de choses. Dès le premier soir, il y a eu des orgies, parce que j'allais y venir, Ludovic, mais tu es impatient.
Ah, mais je suis impatient, oui.
Et on va aller sur la découverte de l'autre, sur le corps, sur la drague, on va aller très très loin, on va même aller sur des histoires où une femme, elle est à moitié femme, à moitié louve-garou, où elle explique comment, en fait, grâce à son corps mi-femme, mi-louve, elle arrive à garder le membre de l'homme comme les chiens quand ils coïtent, entre eux, ils restent des fois coincés. Mmh. Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment. Et là, en fait, cette femme nous raconte comment elle arrive à tenir son amant dans son vagin grâce à une sorte de ventouse qu'elle a réussi à force de coït et de transformation, de mutation vers sa forme loup-garouve.
On ne voulait pas tant de détails, en fait.
Oui, mais je me dis, en quel moment ça vire sur...
On voulait bien que tu en parles. Bon, Pauline, ça ne la dérange pas, mais...
Moi, je suis stupéfaite parce que je n'arrive pas à imaginer la construction de ton bouquin. Ah, je me dis que c'est délirant complètement.
C'est totalement délirant parce que... Mais alors, l'auteur est hyper sympa parce qu'il est architecte de métier, donc il est quand même assez... Mais Ludo, allez le dire, c'est ça.
C'est ce que j'allais te dire, c'est quand même un architecte. Normalement, c'est construit,
c'est... Oui, c'est construit, c'est carré. Donc du coup, quand tu es dans le récit 1, quand tu es dans le mas d'en haut et que tu vas sur l'histoire d'un tel, il te met de 1 à 3 et de 1 à 5, de 5 à 4. Mais par moments, c'est compliqué. Et il est sympa parce qu'au milieu quand même du livre, il te fait des petits schémas pour rappeler, pour construire le cercle mnémonique et pour ramener quand même cette personne à la vie. Non, mais on est vraiment sur
là, vous ne voyez pas les images, mais c'est un graphique avec des...
Enfin, c'est un truc capillotracté
dans tous les sens.
Non, c'est pas capillotracté parce que quand tu te laisses baigner dans cette histoire, en fait, tu es persuadé que.
Mais t'arrives à retrouver dans les graphiques le truc.
Non, parce que quand tu te mets dans l'histoire, tu reconnais les personnages sur les tempéraments ou autre.
Oui, c'est peut-être ses graphiques à lui perso pour construire son truc.
Mais mais c'est sur son premier livre, sur les jardins de sept crépuscules, il est parti encore plus loin sur je vais plus loin.
Tu veux du graphisme.
Et là, c'est...
Moi, j'ai des graphismes dans mon prochain livre.
Ludovic est en train de monter un vieux Kamasutra dégueulasse. Et je trouve ça sale.
Oui, oui, mais moi j'ai trouvé ça dégueulasse comme livre aussi. Je sais même pas
comment
si je
vais en parler.
Elle ne rentre pas, celle de mon mari, c'est
non,
ça,
ça c'est un autre, ça, c'est le, mon second livre.
Là, c'est quand même un vase qu'elle a en train
très bien,
de...
merci de ta présentation. C'est un prochain livre, ça nous aurait quand même intéressé. Il est petit-fils de, d'archéologue. Alors, ça, c'est quand même.
Tu parles de Miguel de Palol, qui t'a pas du tout intéressé.
Absolument, il est fils d'archéologue et petit-fils de l'écrivain poète Miguel de Palol. Miguel, pas Miguel. Miguel.
Alors, Miguel de Palol, c'est lui. Donc, je pense que tu as fait la bio de son petit-fils.
Non, pas du tout.
D'accord.
Voilà.
Et après, il a écrit un recueil de poésie hyper sensuel, où il, en fait, il a eu une aventure avec une femme et une aventure qui était, comment on dit, illégale. Non, au contraire. Ah. Oh là 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 là, non. Et tous les jours, il écrivait un poème où il racontait leurs aventures, leurs ébats sexuels. Et ça a duré tout le mois d'août. Et en fait, tu as 1er août, Playa de la Santa de la Cruz. Et il faisait un poème
tu
sur...
Tu le fais bien, ça.
Ouais, c'est du coup ça que je sais faire. Hein, donc, il faut en profiter.
C'est très érotique, en fait, cet accent.
Son recueil
tu utilises.
Arrête un peu.
Pardon, excuse-moi.
Son recueil de poèmes, c'est un mois d'aventure sexuelle, plus ou moins. C'est,
Alors, tu parlais des chiens de coït. Tu sais que dans certains contes exotiques amérindiens, les vagins ont des dents.
Oui.
Est-ce que je le savais ?
Les femmes aussi.
Et les femmes
quand
aussi.
Quand on leur coupe leur chronique comme ça.
C'est ça. Mais je ne t'ai pas coupé la chronique, c'est que tu en avais bien parlé. Et je pense qu'on a, assez, on a fait le tour. C'est très bien. Nico, c'était, conte érotique amérindien.
Fais gaffe,
amérindien.
Je te coupe dans 3 minutes.
Irène Winslow, qui est une journaliste, grand reporter, qui a fait pas mal de recherches en fait, sur ses contes. Et c'est vraiment c'est assez étonnant. Alors, en fait, elle a puisé dans la culture amérindienne. Et elle a quand même, après, retravaillé les textes. C'est-à-dire, c'est pas l'histoire... de base, hein. C'est revu et corrigé. Donc, je vais vous lire juste les titres en fait, hein, des différents. Donc c'est un recueil de contes en fait, voilà. C'est souvent assez fantastique. Par exemple, on découvre le peuple de ces femmes qui vivent reclus, une tribu de femmes en fait, hein, qui vivent reclus et qui ont des vagins. Recluses qui ont des vagins édentés, voilà. Et en fait, ces vagins, en fait, sectionnent les sexes des hommes qui viennent et qui sont, ou sont des femmes très plantureuses, qui en fait les attirent et qui en fait les émasculent. Hein. C'est tout.
Pauline
à fait
vient
ça.
De sectionner quelque chose dans le micro. J'ai entendu.
Oui,
je ne sais pas ce que c'était.
C'est bizarre, Pauline.
Oui, c'est ça.
Donc, par exemple, c'est l'amour à mort. Donc, c'est un chapitre. Donc, il y a les Shimona Mamantu. Il y a Tikiwiwiti, la déesse qui pétrifiait les hommes égarés. Après, il y a un autre registre, c'est les appétits insatiables, donc un pénis nageur. Pourquoi les hommes ont des petits pénis ou des pénis qui auraient dû être plus grands. La séparation des sexes. Voilà, donc en fait, c'est un recueil de contes, mais qui sont extrapolés. Ce qui est intéressant dans ce bouquin, les contes ne m'ont pas vraiment plu. Moi, j'ai trouvé ça un peu biscornu et surtout assez extravagant et pas très crédible, mais malgré tout c'était quand même c'est quand même issu de la culture amérindienne, hein. Mais par contre elle fait à la fin du bouquin, en fait c'est pour, elle fait un truc qui s'appelle pour aller plus loin, et donc elle raconte toute l'histoire, toute la partie on va dire recherche qui est associée à ce conte. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. En fait, je dirais que la partie recherche est presque plus intéressante que le conte.
Ouais, voilà. C'est un peu problématique.
Oui, parce que quand on lit un bouquin comme ça, on s'attend à ce que le conte...
T'as envie de...
Soit...
Voilà, et oui.
Et les contes sont pas... Enfin...
C'est ouais, surfait.
Sont pas très intéressants, en fait. Sont pas très
est-ce qu'elle les a pas trop édulcorés ou est-ce qu'elle a pas trop transformé
pas.
Ça, on peut... On pourra...
C'est compliqué, la littérature.
C'est plus un témoignage, hein, sur, ça.
Ouais.
C'est plus un témoignage, c'est plus un travail de recherche. Après, il y a des contes dedans, hein, donc, mais c'est plus un travail de recherche, je dirais, qu'un livre intéressant sur les contes. Et voilà.
Ok.
Parce enfin, on ne peut pas lire ça à son fils le soir avant de s'endormir.
Non,
même
ben
s'il
non.
a 15 ans.
Ouais. Tu peux.
Enfin, tu peux, mais bon. Je suis pas sûr qu'il t'écoute, quoi.
Non, mais c'est intéressant quand, enfin, après, c'est très, très, très personnel, mais quand, dans la littérature érotique, quand les choses sont suggérées, quand c'est amené de façon trop, trop abrupte ou trop, trop attendue, bon. Voilà, c'est ok, c'est comme ça, il y a un coït, il y a machin. Alors que quand,
et puis
quand
là, c'est fantastique quand même. C'est des histoires qui sont assez, enfin, qui sont pas trop crédibles. Mais c'est pas trop ce qui gêne, c'est plutôt que c'est assez bizarre en fait. Ça crée un sentiment assez bizarre, quoi. Pourquoi, pourquoi ces femmes font ça? En fait, c'est pas trop expliqué derrière. Enfin, il y a une vraie raison, hein. Pourquoi ils ont écrit ça, hein. Pourquoi ils ont.
Il y a certainement, il doit y avoir, oui. Une logique, d'ailleurs, je sais pas, non?
Ben non.
Non. Ok.
Voilà.
Très bien.
Ben, ça va pas.
Ouais, pourquoi
ça
pas.
Va vraiment accroché. Je m'attendais à autre chose, en fait. Mais
bon. Ok. Ouais, et après, c'est pour ça que tu as lu un peu de compte. Oh, ben, je vais relire Blanche-Neige, peut-être. je vais relire la page 12, j'adore. Bon, très bien. On va finir par, rapidement par deux livres. Je te laisserai clôturer l'émission, comme souvent, Valérie. Je vais vous présenter un livre de Jean-David Morvan qui s'appelle Galjin, qui est de 2021. Juste pour les gens qui ne connaissent pas Jean-David Morvan, c'est celui qui a repris Fantasio et Spirou. Ça a été repris dernièrement, enfin ça a été relancé plutôt. Il a, alors je suis en train de chercher. Il a repris avec son acolyte Munuera, la série Spirou et Fantasio. Donc pareil, ça, pas super super intéressant. Comme livre.
On a lu que des perles, dis donc.
Oui, voilà, c'est la vie d'une japonaise, une étudiante japonaise qui bascule le soir où elle rencontre un français. Elle est amoureuse des Galjin. Les Galjin, c'est les étrangers qui sont au Japon. Mm-hmm. Cet homme aime regarder faire l'amour et pas le faire lui-même, et donc il va se servir de cette femme pour assouvir ses fantasmes. La fin de l'histoire est. Il y a une bonne chute sur rapport au sexe. Elle, elle, elle prend plus de plaisir finalement. Elle en prend autant que lui en prend. Donc, il y a une certaine équité. Ça parle un peu de la condition des femmes au Japon, mais rapidement. Voilà, c'est pas, je le conseille pas forcément. Il y a un peu trop de sexe, de pornographie à mon goût. Voilà, sur, sur, sur ce livre. Valérie, on termine cette émission avec un roman.
Non, là, celui dont j'avais envie de parler, c'était, c'était une BD parce que, mais c'est quand même triste de terminer sur une note.
Pourquoi ?
Comme ça, parce que dans la littérature érotique, y a, c'est peut-être où le sujet est trop, trop large, j'allais dire. Oui. Ça aurait été bien pour ton autrice de manga. Vu que voilà, mais c'est parce qu'il y a plein de choses. Tu vas avoir de, oui, du roman, oui. Tu vas avoir de la BD. Enfin, il y a plein de choses. Là, j'hésitais. Tout
Tony
à l'heure,
Sandoval, Oscuro, oui. And Rosa.
J'avais envie de vous parler de plein de choses. J'avais la création de l'univers par ben, par la maison de Roquet Marteau, enfin des choses comme ça. Mais celui-là, il m'a touchée parce qu'il est fait tout en aquarelle. Et là, c'est les couleurs étaient très touchantes parce que ça s'appelle donc Oscuro and Rosa. De Tony Sandoval.
Mexicain.
Le dessin. Alors, j'ai pas du tout regardé sa bio puisque c'est ton
mexicain.
Boulot, ça. Ok.
Voilà.
Olé.
Olé.
Voilà. Et c'est donc, c'est édité chez Porn Pop. C'est porn, mais c'est porn sur trois pages.
C'est pop.
Mais c'est pop. Ouais, c'est pop et c'était beau. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça érotique par moments. Et c'était une agréable surprise parce que je. J'étais un peu comme vous, j'étais un peu, oh là là, qu'est-ce que...
Oh là là, voilà. Il a pris Blanche-Neige, je le voulais, qu'est-ce que je vais récupérer.
Voilà, je vais devoir aller chercher dans mes collections privées des trucs, puis lui, il va m'allumer un réel.
Il va dire non,
blablabla, ouais. Tout ça. Et en fait, c'est très joli.
De quoi ça cause ?
Et de quoi ça cause ? C'est une jeune fille qui n'a pas d'âge, qui, pareil, est en vacances. Potentiellement, elle pourrait être au point sublime, mais c'est à peu près, je dirais peut-être elle est en Vendée, peu importe. Et elle est là, elle est au bord de sa rivière, de je ne sais quel...
Un marécage.
C'est un marécage.
Un point d'eau marécageux.
Ouais, enfin, il y a de la flotte. Mmh. Et il y a un insecte animal qui passe par là et qui dépose quelque chose qui porte dans son dos, mais il est pressé, mais pouf, il tombe un truc. Et la jeune fille, elle est là et elle boit, et il y a le truc qui est tombé dedans. Et en fait, elle va se baigner et elle touche son corps. Mais ça, il n'y a rien de nouveau jusque-là. Et quand elle touche son corps, apparaît un homme des marées.
Albinos.
Certes, mais c'est pas grave. Hein. Il a le droit d'avoir
une
particularité physique. Et ils ont un coït fabuleux. Non, tu un autre adjectif peut-être.
Non, je ne sais pas, je te laisse.
On se retrouve dans les marais à poil, elle boit un truc et elle découvre.
Elle boit un truc et puis là il y a un coup.
Elle tombe dans un songe érotique.
Très court,
mais
très bref.
Mais c'est lié à ce qu'elle boit.
On suppose, mais on ne sait pas trop parce qu'elle se transforme pas. En fait, non, il y a comme un pollen qui est transporté par cet insecte animal qui tombe et ce petit pollen rond.
Je viens de là où je suis, on a une belle vue sur.
Voilà. Et ce petit pollen rond, en fait, finalement, elle le retrouve, mais on imagine plutôt qu'elle est en train de dormir et qu'elle découvre ses parties féminines à ce moment-là. Mais ce pollen rond lui donne envie de découvrir sa féminité. Pouf, et ça s'arrête là. Donc elle a ce rapport avec ce jeune homme albinos démarré. Et arrive le voisin boutonneux, adolescent, qui a un nez encore plus grand que le mien. Vous imaginez, sur lequel toutes les mouches de la Terre peuvent se servir de piste d'aéroport. Enfin, c'est horrible. Et il est affreux et il est follement amoureux. Et forcément, ben, la petite voisine
pour voir son nez.
Ah, ben, c'est un pic, c'est un cap, c'est un roc, que dis-je, monsieur, c'est une péninsule. Ah, curieux, de quoi vous sert cet oblong capsule? Voilà. Et c'est terrible. Et en même temps, il est touchant, il a l'air sympa, il a l'air gentil. Et cette jeune femme, donc, qui a bu cette espèce de produit, elle est avec sa meilleure amie, puis elle lui dit, écoute, voilà, il se passe un truc bizarre en moi. Regarde. Et là, elle lui montre que si elle se caresse, il y a un truc qui sort dans elle, et c'est
un sexe,
une vierge. Sexe. Oui, parce que je vous montre les dessins, d'homme. Donc je ne peux pas en parler. Voilà. Et donc un sexe d'homme sort d'elle. Et
en là, fait, sa son meilleure clito amie se transforme en verge. En verge, quoi.
Voilà. Et là, donc sa meilleure amie profite de l'occasion. Youhou, une verge. Et donc
ça m'intéresse.
Elles ont un coït absolument fabuleux, dit-elle. Où se mêlent les serpents ou tout ça. Le petit voisin avec son grand nez voit tout. Et on se dit, ben, ça va continuer sur ce côté un peu foufou, et non. Et après, ben, une aventure...
Il n'a pas le nez qui pousse, lui ?
Un petit peu. Et avec des pustules qui s'éclatent. À chaque coït, il a une pustule qui éclate comme s'il avait, il était orgasmique. Mais oui, non, mais c'est affreux sur ça. Et après, en fait, de ce jeune homme avec ce grand nez, se crée une sorte d'idylle avec cette jeune fille. Et cette jeune fille, en fait, elle part à la recherche de qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui se passe. Enfin, on découvre une aventure d'une jeune adulte adolescente qui va aller sur la plage jouer de la guitare sur un feu de bois avec tous ses copains, tout
c'est
ça.
C'est un beatnik.
Hein, c'est ça.
Lequel?
il a été parfois comparé à Tim Burton, cet artiste, pour créer un univers différent et poétique dans chaque œuvre qu'il fait. Donc celle-là peut être complètement différente d'une autre qu'il a créée précédemment ou par la suite. Il cherche des univers vraiment visuels et poétiques. Il fait beaucoup d'aquarelles. C'est assez doux.
Oui, c'est aquarelle.
C'est très très aquarelle. Et c'est doux et à la fois, au départ, c'est très, très sexuel, puisqu'il y a quand même sa meilleure amie qui vient, qui a une relation sexuelle.
Il y a beaucoup de fantastique aussi. C'est lié à ça.
Ouais, mais il y a un côté très, très terre à terre malgré tout. Enfin, il y a quand même, moi, pour moi, c'est, quand avec Pauline tout à l'heure, on parlait de la sexualité des adolescents, là, on est en plein dedans. On est en plein de « je découvre ma sexualité ». Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un homme? Enfin, est-ce que j'ai un vagin ou est-ce que j'ai un pénis? Sans parler de femme ou homme. Comment est-ce que j'ai envie de m'en servir? Comment est-ce que je peux m'en débarrasser si cet appendice ne me convient pas? Et il y a toute la découverte de la sexualité et c'est tout. Il y a des moments un peu compliqués parce que bah, forcément, quand elle se retrouve toute seule dans les dunes, là, avec la guitare et les machins... Mais le fait que ce soit fait en aquarelle, il y a ce côté naïf, ce côté doux.
Oui, ça adoucit.
C'est vrai que ça adoucit
le propos.
Le trait, ouais.
Et il y a cet ado qui a le grand nez, là. En tant que la ligue des grands nez, on se comprend, mais c'est... Et qui tente de passer à l'âge adulte parce qu'il est grand, mais il a toujours sous cet air adolescent un peu gauche. Il se dit merde, je suis plus vieux qu'elle, je devrais être. Et c'est pour moi, c'est une franche réussite. Je n'avais jamais entendu parler de lui avant. Et ça a été un peu mon petit coup de cœur du carton littérature érotique.
Bon, mais tu vois pourquoi tu voulais pas terminer par ce livre-là?
Parce que j'en avais 148 autres derrière.
Ah oui, mais il faut bien terminer, il faut bien voilà.
Il faut un dernier dans la queue.
Il faut un dernier. Très bien. Et c'est quelle maison d'édition du coup cette bande dessinée, Pauline?
Porte Pop.
Ah oui, c'est, tu l'as dit, Porn Pop.
Mais on peut le redire, tant et plus.
Avec Glenna, pardon, ça doit être une collection.
Oui, c'est la série Porn Pop.
Oui.
Ok. Bon, mais super. Merci beaucoup pour cette sélection que
nous avons choisie. Pauline voulait lire une poésie.
C'était drôle à...
Ah oui, Pauline voulait faire une sélection, oui.
C'était drôle à...
Une poésie.
C'était drôle comme émission à lire. Bon, c'est assez étonnant, mais c'est vrai, c'est des univers entre les bouquins, les romans, les BD, tout ça, c'est quand même des univers très très différents. C'est aussi une façon de parler de sexualité de plein de formes, de plein de formats, avec des styles très très différents. C'est quand même intéressant.
Oui, parce qu'on ne parle pas de La Fontaine, du Marquis de Sade. On aurait pu.
Oui, c'est ça.
Mais ça montre que c'est inspiré depuis la nuit des temps, de La Fontaine et ses contes libertins, d'Apollinaire et ses 11 000 verges. Tout ça, c'est.
Et Pierre Perret.
Depuis toujours. Et Pierre Perret, lui, il a fait un recueil, une espèce d'anthologie, où il a repris pour lui les meilleures poésies de. Je pense qu'on est à l'époque de Gargantua, presque nos jours.
Ah oui, les périodes traversées, c'est hyper large.
Voilà. Il y a plein de choses qui ont été traversées dans ces poèmes, et Pauline avait très envie de nous en lire.
On va parler de traversées, justement.
Voilà.
La vicieuse. Ah,
La vicieuse.
C'est parce qu'il était abonné à Perceuse.
À La vicieuse.
Perceuse et.
Bricomag.
Par Louis Perso.
Voilà. Avant de laisser le revoir à notre ami qui était quand même. Petit peu chaud lapin, Valérie Giscard d'Estaing. On va te laisser lire une poésie de Pierre Perret.
Alors, c'est pas Pierre Perret.
Non,
c'est Louis Perso.
Ouais.
C'est Louis Perso.
Dit Vérino. Viens t'asseoir sur mon dard enduit de vaseline, car je connais tes goûts, ma vicieuse Lynn. Et qu'il te faut sentir un gros membre enfoncé dans tes chairs élastiques, cependant que d'un doigt prompt à te divertir, par-dessus tu t'astiques. Sur ce clou palpitant, assis sans bouger, tu n'attends le plaisir que de ton doigt léger. Mais sitôt qu'il s'amène, lancinant et rapide, infernal et profond, ton corps comme en fureur sur mon dard se démène pour l'entrer jusqu'au fond.
Bravo !
Pas mal, Pauline, pas mal.
Pas mal ! Merci tout le monde. Allez, on se retrouve le mois prochain pour une émission peut-être plus légère, peut-être pas, on ne sait pas. Et peut-être qu'on vous lira toutes les émissions des poésies érotiques. Allez, comme dirait l'autre.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.